Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Vendredi, nous sommes allés accompagner notre meilleur auditeur, notre plus fidèle auditeur. Il s'agissait de Thierry Toulze. Nous sommes allés assister à ses obsèques. Thierry Toulze, qui a disparu et qui donc ne pourra plus écouter cette émission qu'il avait écoutée ces dernières années, ces 20 dernières années, fidèlement, me disant tout le temps ce qu'il en pensait, avec beaucoup de critiques souvent, mais des critiques toujours bienveillantes et pertinentes. Nous reparlerons, bien sûr, de Thierry Toulze, alias Capitaine Slam. Pour ceux qui nous écoutent, je vous signale que sur notre site, lespoètes.site, vous pouvez retrouver toutes nos émissions et vous pourrez voir, en faisant défiler les années, vous verrez que dans les années 2023, 2022, même je crois avant 2019, vous allez retrouver des émissions avec Thierry Toulze, alias Capitaine Slam. Alors, aujourd'hui, les artistes font que la vie continue, donc la vie continue, et pour lui, parce que il n'aurait souhaité que ça, que la vie continue. Nous allons continuer nos émissions, nous parlerons de lui, bien sûr. Nous ferons un hommage à Thierry Toulze, alias Capitaine Slam. Cet hommage a un peu commencé, puisque lors de la passéjade toulousaine qui a eu lieu le samedi 9 novembre, cette passéjade dans la salle Clément Cizor a commencé par l'audition d'un enregistrement de « Le poème continuera, le poème continuera » du Capitaine Slam. Alors aujourd'hui, nous allons avoir la joie d'être en relation avec un poète que nous aimons beaucoup. Il s'agit de Thierry Pierre Clément. Alors Thierry Pierre Clément, nous avions fait une émission avec lui il y a quelque temps, lorsque il avait fait paraître aux éditions Ad Solem Approche de l'aube, avec une très belle préface de Jean-Pierre Lemaire. Et Thierry Pierre Clément vient de publier aux éditions Samsa Poésie fenêtre ouverte. C'est un essai très bien mené sur la poésie, ce qu'est la poésie, ce que sont les poètes, avec une préface de Myriam Wati Delmotte. Pardon si je ne prononce pas bien son nom. Nous avons Thierry Pierre Clément en ligne. Thierry Pierre, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Alors, ce n'est pas de retour. Je vais interroger. Ah, oui. Thierry Pierre Clément.
Oui, allô?
Ah, oui, bon, voilà.
Nous sommes... Alors, je vous entends très, très, très mal.
Ah, on m'entend très mal, hein, je signale ça à notre webmaster technicien, Claude Bretin. Est-ce que c'est parce que j'ai peut-être moi-même le... Ça va mieux, là?
Un petit peu. Un petit peu mieux, mais c'est pas extra, mais ça fait rien. On va essayer. Oui. Dites-moi.
Bon, alors, donc je vais annoncer la parution de votre livre, Thierry Pierre Clément, Poésie, oui. Fenêtre ouverte, avec une préface de Myriam Wati Delmotte. C'est un essai aux éditions Samsa, ça vient de paraître. Et il s'agit là, donc, je disais, d'une recension de la poésie en cette partie.
Excusez-moi, monsieur, mais je vous entends vraiment pas bien. Je suis désolé, je vous entends vraiment pas.
Oui. Alors, écoutez, ce que je vais vous demander, c'est de présenter ce livre, vous-même.
D'accord. Alors, présenter ce livre. Écoutez, il s'agit d'un ensemble de textes qui ont été écrits dans diverses revues, parfois assez anciennement. Le premier texte date d'il y a une trentaine d'années, et le dernier est beaucoup plus récent puisqu'il s'agit de l'année passée. Et ces textes, j'ai souhaité les rassembler, d'abord pour mon propre plaisir, et puis en les rassemblant, j'ai découvert qu'il y avait, me semblait-il, un fil conducteur. Ça m'a bien intéressé et bien réjoui, parce que je me suis dit que ça prouvait une cohérence au fil des années de ce que j'avais écrit. Et donc, je me suis dit, mais peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Donc, j'ai posé la question à Myriam Watté-Delmotte, qui est quelqu'un de vraiment au top, je dirais, au niveau de la littérature, hein, puisqu'elle est professeure émérite à l'université de Louvain. Elle est spécialiste en littérature de langue française. Bon, c'est vraiment, je pouvais pas trouver une meilleure personne pour me donner un avis franc et sincère sur mes écrits. Et elle a lu cet ensemble et elle m'a dit, mais oui, c'est très très bien et il faut le publier. Alors, non contente de m'encourager à publier cet ensemble, elle en a écrit la préface, je suis vraiment très très content. Alors, il s'agit d'un ensemble de textes sur la poésie, donc ce n'est pas de la poésie, j'ai écrit plusieurs recueils de poèmes par le passé, et ici il s'agit de textes sur la poésie, qui explore, si vous voulez, les espaces de différents poètes desquels je me sens assez proche, et ces poètes sont Kenneth White, pour commencer, qui m'a pas mal influencé avec la géopoétique qu'il a mise au point. Jean Dumortier, un poète belge qui est tombé dans l'oubli, mais qui m'a duquel je me sens très proche également. Blaise Cendrars, là j'ai voulu relire son poème, son fameux poème La prose du transsibérien, mais avec un autre regard, si vous voulez, un regard qui prend un peu le contre-pied peut-être de la lecture habituelle de ce poème. Et puis enfin Jean-Pierre Lemaire et Jean-Marc Sourdillon, deux poètes actuels, toujours vivants, et qui sont desquels je me sens vraiment très très proche. Et puis j'ai terminé cet essai par un chapitre intitulé « Hors les murs, par-delà les mots, pourquoi la poésie ?» J'ai essayé d'exprimer en quoi la poésie m'habite et de quelle façon moi-même j'habite la poésie, quoi. Quel est mon positionnement personnel par rapport à la poésie.
Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien, par la première partie. Vous m'entendez, là, maintenant ?
Ah, je vous entends beaucoup mieux, oui.
Ah, bon. Alors, merci. Nous allons commencer par cette première partie que vous intitulez « Pour un monde nouveau ».
Oui.
Hein, un nouveau langage pour un monde nouveau.
Oui.
Mais, au départ, je voudrais vous citer, vous dites « Chez quelques-uns, tapis au fond d'une mémoire secrète, subsiste le souvenir de la parole perdue. Lorsqu'ils remontent à la surface, leur vie n'aura de cesse que de partir à sa recherche. Cette aventure est celle du voyage intérieur. »
Oui.
Voilà.
Oui.
Alors,
oui.
Cette parole perdue, c'est quoi ?
Alors, cette parole perdue, je dirais, elle peut pas être définie, elle est indéfinissable. Mais on sent un manque. Enfin, certaines personnes, en tout cas, sentent puissamment à l'intérieur d'elles-mêmes, au plus profond d'elles-mêmes, un manque. Un manque de quelque chose qu'elles ne peuvent pas définir, mais qui est là. Et donc, elles se mettent en route. Ce manque est le point de départ pour l'élan qui va nous mettre en route vers un espace inconnu, mais qui est c'est un appel puissant, quoi. On peut pas s'empêcher d'y aller, mais on sait pas où. Et je pense que enfin c'est ma définition entre guillemets, si vous voulez, de la poésie. Comme je disais, elle était indéfinissable, mais c'est comme ça que je dirais qu'est-ce que la poésie pour moi. C'est ce que je ne sais pas, en quelque sorte. C'est ce que je ne sais pas. Il y a quelque chose d'un petit peu mystique peut-être, hein, dans cette démarche. Cette parole perdue, c'est une parole qui nous fonde véritablement, qui est notre essence. Et constamment, nous devons tenter de la retrouver, quoi. J'ai le sentiment que nous sommes quelque part en exil, si vous voulez. Ça, c'est mon sentiment. Hein. Je dis pas que c'est une vérité, mais c'est la mienne. Voilà.
Et bien entendu, vous dites que cette aventure est celle du voyage intérieur.
Oui.
Donc la poésie est toujours de l'ordre de l'intériorité.
Ah oui, très clairement, très clairement. Je pense que la poésie vient du plus profond de soi, elle vient même d'au-delà de soi-même, notamment à travers l'inconscient, et simplement le poète essaye d'être fidèle à cette parole qui vient de plus loin que lui, quoi. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'extérieur, de l'extériorité, bien entendu. Et on pourrait dire que l'extériorité se traduit par le discours rationnel, le langage rationnel. Eh bien, je pense que la poésie prend le contre-pied de ça, en quelque sorte. Et donc voilà, oui, je pense que la poésie, c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur et qui va au-delà de soi. Elle s'extériorise, bien sûr, à un certain moment, parce que il suffit pas de se contenter d'écouter une voix intérieure. Le poète, je crois, cherche à partager ce qu'il entend au fond de lui-même. Et donc, cela s'extériorise, mais sur un autre plan que le discours qu'on entend habituellement dans la vie de tous les jours.
Le discours prosaïque, nous sommes.
Oui, voilà. C'est ça.
Et c'est Edgar Morin qui disait que tout était dans une systémie.
Oui.
Et vous dites, en parlant de Kenneth White, que tout est relié.
Oui.
Tout est relié. Donc il faut rassembler les morceaux, hein, apparemment épars de nos cultures éclatées. Et,
oui.
C'est comme Isis qui va rassembler les morceaux d'Osiris.
C'est ça.
Et de mettre en évidence la sève sauvage et illuminatrice qui leur est commune.
Oui.
Et vous ajoutez, les sages n'ont jamais rien dit d'autre depuis des siècles et ils continueront.
Oui, je le crois. Effectivement, oui. Je pense que notre condition humaine est de vivre dans un monde qui, comme on le disait tout à l'heure, a perdu cette parole essentielle, et donc nous vivons en exil et de manière éparpillée, de manière éclatée. Nous sommes dans la division, et c'est notre lot à tous, hein, bien entendu. Et je pense que le rôle du poète, comme de la plupart des artistes et d'autres personnes également, les sages, vous parlez des sages, oui, bien sûr, le rôle de ces personnes est de tenter de relier ces morceaux épars, quoi, pour essayer de retrouver l'unité perdue. Ça, j'y crois très très fort. Et encore une fois, cette unité, je peux pas la définir. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais je sais qu'on a besoin d'unité.
Parce que, et vous reprenez l'idée de Kenneth White, l'homme vit séparé.
Hein. Oui.
Il est séparé de la terre, il est séparé de lui-même.
Oui.
En définitive, hein, c'est ce que dit Kenneth White.
Oui. Oui, oui, en effet. Oui. En effet, Kenneth White pose un regard très critique sur notre société, sur notre civilisation. Il dit que depuis Descartes en particulier, il y a une coupure, une coupure très forte entre l'être humain et l'esprit, si vous voulez, hein, entre le corps, entre la matière, entre les éléments, entre les sens et l'esprit, si vous voulez, et la nature aussi, les éléments de la nature. Donc ça, c'est un regard très critique que Kenneth White pose sur notre civilisation, quoi. qui, pour lui, est en perte de sens. Pour lui, d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui partagent cette opinion.
Oui, ce qui est assez terrible, quand même. Hein.
Oui.
C'est assez terrible. Et il dit des choses, le contenu de tout ce que j'écris, c'est toucher terre à nouveau, revenez au monde immédiat.
Oui, c'est ça, parce que pour lui, le moyen de retrouver cette unité, si vous voulez, c'est de se réconcilier avec les éléments naturels qui nous constituent et desquels nous sommes séparés de plus en plus. Enfin, il suffit de voir la façon dont notre société évolue. Dans le sens d'une séparation de plus en plus marquante avec les éléments naturels. Hein. Il suffit de voir la perte de la biodiversité. Enfin, bon, on en parle tous les jours. Je vais pas revenir là-dessus. Chacun le sait. Mais c'est une pente vraiment descendante et qui continue d'aller dans ce sens de la séparation, quoi, entre l'homme et la nature. Oui. Bien sûr, il n'y a pas que Kenneth Watt qui dit ça. Il y a bien d'autres personnes qui l'ont dit aussi. Hein. Mais bon, là, je me suis penché sur l'œuvre de Kenneth Watt parce que c'était un ami, parce que j'étais vraiment influencé par son œuvre, quoi, par ses écrits. Et donc voilà, j'ai choisi les textes qui sont repris dans ce livre. Ce sont des choix qui sont bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, bien entendu.
Bien sûr. Et puis c'est celui qui a introduit la géopoétique, quand même.
Il a un niveau important
dont on ne parle pas assez, à mon avis.
Oui, c'est possible. Je pense qu'on n'en parle pas énormément et parfois on en parle en déformant un petit peu les choses. Mais effectivement, Kenneth White a introduit le concept de géopoétique dans les années 80. Il a fondé un institut de géopoétique. Et c'était pour lui une tentative justement de créer une sorte de réseau, si vous voulez, de personnes avec cette envie de réconciliation entre l'homme et la nature et d'unité, quoi. Et il tentait à travers la géopoétique de réunir poésie, art plastique, science, donc c'était assez vaste, hein, c'était une nouvelle conception d'un monde en quelque sorte. C'est renouveler notre perception du monde et notre contact avec le monde. Ça, c'était l'ambition de Kenneth White. Ce que ça va devenir maintenant qu'il est décédé, je n'en sais rien, honnêtement. Mais voilà, c'est une pierre posée sur le chemin humain, quoi. Oui. Une pierre importante, à mon avis.
C'est ce qu'il appelait, vous le citez, sortir de l'histoire pour rentrer dans la géographie.
Exactement, oui.
Voilà. Je vois que vous des frontières. Vous
dit, hein.
Oui. Alors, il y a une distinction aussi intéressante que fait Kenneth White. C'est sur la culture. La culture, oui. Une culture et de la culture.
Oui, oui. Oui, alors là, je n'ai pas m'autoriser à essayer de redire ces mots, oui. Parce que je risque de me tromper. Je regarde si j'en parle dans mon livre.
Je peux vous le lire. La culture, oui. Écrit-il, c'est la manière dont l'être humain se conçoit, se travaille et se dirige.
Oui.
Une culture, c'est un ensemble de motifs, de motivations, une vue et une vie d'ensemble, telles que le connaissent par exemple le Moyen-Âge, la cité grecque, une tribu paléolithique. Nous ne pouvons guère prétendre aujourd'hui à une culture dans ce sens. Il est très, très, très sévère quand même. Hein.
Ce que nous avons, c'est
de la culture, où l'on trouve le meilleur, mais il faut avoir de bons yeux, et le pire, mais surtout, un étalage massif de médiocrité. Terrible quand même.
Oui, mais comme je vous le disais, Kenneth White y posait un regard très critique et très très sévère, et il utilisait parfois des mots, même parfois un petit peu outranciers, pour décrire l'évolution du monde culturel qui nous environne, quoi. Mais en même temps, c'était une manière de nous secouer.
Bien sûr, bien sûr.
C'est une manière de nous secouer et de dire, écoutez, là, on prend un chemin qui est peut-être pas tout à fait le bon. Voilà. Ouais.
Alors, dans votre poésie Fenêtre ouverte, notre aperçu de la poésie est donné par Jean Dumortier.
Oui.
Donc, alors lui aussi, hein, il est aussi sévère en définitive que Thierry Pierre Clément, hein, puisqu'il dit « Nous sommes en péril par la menace atomique, évidemment, par le chômage, la paupérisation, évidemment, mais encore, le péril vise notre être profond.
Voilà. » Oui.
L'appauvrissement de la parole, de l'art, n'est pas seulement un coup porté à notre connaissance, à notre culture, à notre civilisation, c'est un coup porté à notre cœur, à notre spécificité humaine, c'est une réduction de notre moi dans ce qu'il a de singulier et d'universel. J'ai trouvé que, véritablement, il se rejoignait complètement avec Kenneth White.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à considérer qu'il y avait un fil conducteur à travers ces différents textes. Quand je les ai écrits, moi, j'avais pas l'idée de faire un ensemble qui rassemblerait ces textes, quoi. Donc, et c'est vraiment en travaillant là-dessus, je me suis dit, mais au fond, il y a une parenté, quoi. Vous le soulignez très justement entre Kenneth White et Jean Dumortier, et entre les suivants aussi. Jean Dumortier, donc c'est un poète belge, hein, qui est décédé maintenant et qui est parfaitement oublié, même ici en Belgique, qui pour moi avait beaucoup d'importance parce qu'il avait un regard justement sur la société. Il se contentait pas d'aligner des vers, si vous voulez. Hein. Il se positionnait. Le poète, pour lui, avait une responsabilité au cœur de la fraternité humaine, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
Donc, voilà. Je pourrais citer, à ce sujet, une autre écrivaine belge, Colette Nice-Mazur, avait écrit beau sur Jean Dumortier. Vivre en poésie, écrit-elle, ce serait contempler, interroger tout visage, chaque paysage, n'importe quel objet, au lieu d'habiter le monde en étranger, tenter de l'apprivoiser, de reconnaître la connivence qui nous unit à l'univers, de l'étonnement à l'émerveillement, mais aussi à la rébellion contre tout ce qui réduit, obscurcit la splendeur de l'être. Une présence, une attention qui, loin de renier le réel ou de s'y soustraire, souhaite le recevoir dans sa mystérieuse épaisseur, le célébrer aussi. Donc vous voyez, effectivement, ce qu'écrit là Colette Nice-Mazur, et qui s'applique parfaitement à Jean Dumortier, peut s'appliquer aussi tout à fait à notre ami Kenneth White.
Fait. Oui. Et puis, bon, elle annonce des vérités qui sont des vérités universelles, quand même, pour la poésie et pour l'art en général.
Oui,
et en définitive, pour la civilisation, quoi.
Oui. Absolument. Oui, ce qui est dit ici au niveau de la poésie s'applique bien évidemment à tous les arts.
Oui,
ça, je suis bien d'accord avec vous.
Oui.
C'est clair.
Oui. Mm-hmm. Alors, vous disiez de Jean Dumortier qu'il se voyait comme un homme quelconque réduit à ses voyances, s'obstinant à vivre précisément là où s'arrête le visible.
Oui.
Comme l'écrit le poète, alors, c'est également un poète belge, hein, Raymond Verbovens.
J'ai pas compris le nom que vous avez cité.
Le poète Raymond Verbovens.
Ah oui, Raymond Verbovens, oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est un poète aussi qui est oublié maintenant, Raymond Verbovens, mais je le cite à un moment donné parce qu'il était proche aussi de Jean Dumortier. Il y a la fameuse phrase de Rimbaud, évidemment, il faut être voyant. Et la voyance, c'est quoi? C'est voir au-delà de ce qui est immédiatement visible. Et je pense que les voyants et tous les artistes et d'autres personnes qui ont un cœur d'artiste, hein, je veux dire, sans nécessairement pratiquer un art précis, certaines personnes tâchent de voir au-delà du visible, au-delà de ce qui est apparent, au-delà de ce qui est purement prosaïque, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Et je pense que c'est manifestement le cas de Jean Dumortier et aussi des deux poètes qui suivent Jean-Pierre Lemaire et Jean-Marc Sourdillon, en passant par Blaise Cendrars. Donc le poème la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France de Blaise Sandra, j'ai essayé de le relire aussi avec un regard qu'on pourrait dire spirituel, quoi. Enfin, je pense qu'on peut même supprimer l'expression qu'on pourrait dire. J'ai tenté un regard spirituel sur ce poème de Blaise Sandra. Et c'est ce qui relie, c'est le fil conducteur qui relie chacun des chapitres de ce livre.
Oui. Le poème de Blaise Sandra, c'est, pour moi, c'est certainement le plus beau poème de la langue française, en tout cas du XXe siècle. Ça, genre...
Oui, c'est incontestablement un très très grand poème.
Je crois que c'est le genre de poème qui peut être accessible à tous.
Oui.
Ce qui est excessivement difficile quand même, d'avoir un poème aussi long, aussi dense, aussi riche, et dont on peut dire, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut être bouleversé par ce poème.
Oui, c'est ça. Et bouleversé aussi, parfois, de façon inconsciente. Enfin, je veux dire que ce poème, comme vous le dites, qui est très très long, touche des différentes couches au niveau de l'être, et les lecteurs peuvent être effectivement touchés à bien des niveaux. Et je pense que ce poème s'adresse aussi largement à un espace inconscient chez le lecteur. Et ça, c'est un tour de force de la part de Blaise Sandra, effectivement. Et lui-même, je crois, il s'est laissé porter par son inconscient quand il a écrit ça. Enfin, moi, je le ressens comme ça, hein, je peux me tromper. Il faudrait lui poser la question, mais il n'est plus là pour répondre. Mais moi, je pense qu'il s'est vraiment laissé porter par un souffle intérieur très, 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 très puissant et qui venait de très, 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 très loin, quoi. Et c'est comme ça que il arrive à toucher, je pense, comme vous le dites, hein, nombre de personnes. Oui. Ça, c'est sûr.
Il y a aussi dans ce poème un rapport entre le réel décrit par Père Sendrars, hein, la prose, d'ailleurs il dit la prose, hein, c'est genre, il est dans un récit qui se veut prosaïque, qui se veut narratif.
Oui.
Donc il y a ce réel, et en même temps, avec ce réel, il nous emporte dans un véritable rêve quand même.
Oui, mais ça c'est la fonction même de la poésie, je pense. Je pense que la poésie, c'est utiliser les mots, donc les mots, c'est forcément, ils sont réels, mais pour aller au-delà des mots. Et je pense que effectivement, Sandra y réussit extrêmement bien dans ce poème, c'est sûr. Mais c'est toute la fonction de la poésie et de l'art aussi. Le peintre, il utilise les couleurs, les encres, les traits de pinceau ou de plume, et donc c'est bien matériel tout cela. Oui. Et il exprime quelque chose qui dépasse de loin les signes qu'il peut porter sur le tableau, quoi. Oui.
C'est ce que disait Kenneth White aussi quand il disait qu'un auteur, c'est celui qui augmente la sensation de vie.
Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs la valeur irremplaçable certainement de l'art, d'augmenter cette sensation de vie.
Oui, oui, c'est ça. Mais tout est lié, encore une fois. Si la sensation de vie doit être augmentée, c'est qu'elle s'est un peu perdue, enfin elle s'est affadie, elle s'est amoindrie, parce que nous vivons séparés de ce contact profond avec le monde et avec l'essence du monde, et cette parole perdue, comme on disait au début de notre entretien. Et donc le poète et tout artiste cherche à retrouver cela qui nous fait vivre, en fait. Donc c'est un travail incessant qui n'arrêtera jamais, je crois, tant que l'humanité existe. Eh bien, il y aura toujours des artistes pour dire voilà où bat notre cœur vivant, quoi.
Oui, heureusement. Et vous citez d'ailleurs Blaise Sandrars dans une de ses interviews, et vous dites, il disait, l'important, c'est que l'esprit s'élève, et c'est la fonction et la seule utilité de l'art.
Exactement.
Élever l'esprit.
Exactement. Oui. Voilà. Oui.
Ensuite, j'aimerais que vous nous parliez de la confection de ce poème de prose du Transsibérien avec Madame Delaunay, Sonia Delaunay.
Oui.
Qui en a fait un beau livre. Ça, je crois que les auditeurs ne connaissent pas cette histoire-là.
Oui. Alors, voilà. Probablement qu'au départ, il y avait une espèce de, peut-être de pari, si je puis dire, entre Sandrard et Sonia Delaunay. Sonia Delaunay, donc, était une artiste peintre, qui a beaucoup œuvré à l'époque dans le sens de révolutionner l'art pictural à travers les couleurs. Bien sûr, elle n'est pas la seule, mais enfin, c'était quand même son cheval de bataille, si je puis dire. Et ils ont convenu entre eux, là, Blaise Sandrard et Sonia Delaunay, d'écrire ce qu'ils ont appelé le premier livre simultané. Ils étaient à la recherche d'une inspiration nouvelle, si vous voulez, qui mêlerait la poésie et la peinture. Ils ont travaillé sur une longue bande verticale de 2 mètres et qui était pliée dans le sens de la longueur et puis repliée comme un accordéon. Et ça donnait l'impression d'un tract, si vous voulez, une impression qui était réalisée grâce à la technique du pochoir. Et c'était prévu pour être tiré à 150 exemplaires et toute l'édition devait atteindre la hauteur de la Tour Eiffel, vous imaginez. Mais c'était un échec commercial parce que ils ont essayé de faire ça, ils ont lancé des souscriptions, mais les souscriptions n'ont permis que d'imprimer un petit nombre d'exemplaires, donc ils sont jamais arrivés aux 150 exemplaires prévus. Bref, alors premier livre simultané. Le poème de Blaise Sandrard se trouvait en vis-à-vis des peintures, de la peinture, si vous voulez, de Sonia Delaunay. Je dis en vis-à-vis, mais en même temps, c'était mêlé. Sur la moitié gauche de la bande de 2 mètres figure le tableau de Sonia, tandis qu'à droite se déroule le poème de Blaise. Hein, et donc les lignes de couleurs et de poésie se chevauchent et s'entrecroisent et avancent ensemble. Donc notre œil occidental, en tout cas, commence par lire à gauche et va vers la droite. C'est pour ça que les couleurs de Sonia Delaunay étaient le point de départ, si tu veux, visualiser cet ensemble. Et donc imprégné des couleurs de Sonia Delaunay, le spectateur pouvait lire le poème. Ils ont vraiment travaillé ça parce que le poème était aussi imprimé dans différentes polices de caractères. Donc il y avait aussi un jeu sur les formes, non seulement dans les peintures de Sonia Delaunay, mais également dans la façon dont le poème de Blaise Sandrard était imprimé. Ils ont essayé vraiment de faire quelque chose de tout à fait neuf, quoi. Je recherche ici Apollinaire a écrit quelque chose au sujet de cette expérience. Blaise Sandrard et Madame Delaunay, donc je cite Apollinaire, ont fait une première tentative de simultanéité écrite où des contrastes de couleurs habituaient l'œil à lire d'un seul regard l'ensemble d'un poème, comme un chef d'orchestre lit d'un seul coup les notes superposées dans la partition, comme on voit d'un seul coup les éléments plastiques et imprimés d'une affiche. Voilà, ça c'était le but de Blaise Sandrard et de Sonia Delaunay quand ils se sont attelés à cette magnifique tâche.
Oui. Il en était très heureux d'ailleurs, Sandrard, d'après ce que vous dites.
Oui.
Puisqu'il dit, Madame Delaunay a fait un si beau livre de couleurs que mon poème est plus trempé de lumière que ma vie.
Oui.
Voilà ce qui me rend heureux.
Voilà, oui, exactement.
Maintenant, ces exemplaires doivent valoir une fortune.
Ah oui, je pense, oui. Oui, j'imagine.
Quand on connaît quand même le succès universel de ce poème.
Oui.
De ce poème. La prose du Transsibérien. Alors, dans cette prose du Transsibérien, il y a quand même une chose qui va relier effectivement tout ce que vous dites là. Et c'est toujours la même chose, c'est la vie.
Oui.
La vie, le réel, c'est-à-dire la vie.
Oui.
Puisque pour Cendrars, le seul maître qu'il a, le seul modèle qu'il a dans sa poésie, dans sa création poétique, c'est la vie. C'est la vie elle-même.
Oui, oui, oui. Il disait « Je ne trempe pas ma plume dans l'encrier, mais dans la vie ».
Oui.
Voilà. C'était les mots de Blaise Cendrars, oui. Mais d'ailleurs, il a eu une vie assez rocambolesque et qui a inspiré ses écrits, mais ses écrits étaient vraiment en prise directe avec ce qu'il avait vécu.
Oui. Oui. On peut se demander, c'est une question que je me suis demandé souvent à propos de Cendrars en particulier, mais également d'autres poètes, si quelquefois ces poètes-là ne provoquent pas un peu la vie. C'est-à-dire, ils vont la chercher un peu. Tous ces poètes, même actuellement, là, je pense à un poète contemporain comme Joël Vernet, qui a un besoin irréfragable de partir au Moyen-Orient, aller en Afghanistan, etc.
Bon, oui.
Et je me dis, il y a là ce que recherchait peut-être aussi Cendrars, essayer d'aller saisir la vie dans les coins les plus inattendus, etc.
Mais je le pense, oui, dans le cas de Cendrars, c'est très vrai, et aussi dans le cas de nombre de poètes actuels, bien sûr. Mais encore une fois, ça va dans le même sens qu'augmenter la sensation de vie.
Oui, voilà, c'est
encore,
ça.
Encore
c'est
une fois, ça. J'ai l'impression que ce sont des personnes qui ressentaient également un manque et qui avaient besoin d'aller voir ailleurs, quoi, pour finalement se rendre compte que peut-être c'était à l'intérieur de soi que se trouvent les plus beaux espaces.
Oui, c'est ce que dit Cendrars aussi, en définitive. Dans tout ce voyage-là, il dit, en définitive, le plus grand voyage, c'est toujours le voyage intérieur.
Bien sûr,
Je pense à Yves Leclerc, par exemple, un de nos contemporains,
qui a eu
le besoin d'aller en Chine, dans un village de Chine, pour pouvoir, là aussi, se retrouver une sérénité, quelque chose d'apaisé.
Oui.
On est vraiment toujours dans la même ce que vous dites, ce besoin vraiment d'augmenter la vie, la sensation de la vie.
Oui.
Il y a une phrase d'Henri Miller aussi que j'ai notée, qui a été Henri Miller, qu'il a bien connu, bien sûr, c'est la même, même période.
Ils étaient amis.
Ils étaient amis.
Je pense que Miller a fait connaître Cendrars en Amérique et l'inverse, Cendrars a fait connaître Miller ici en France.
Oui. Ça va être d'ailleurs des amis assez extraordinaires l'un et l'autre quand même.
Ah oui, je pense qu'elle ne devait pas être triste.
Alors il dit, nul mieux que Cendrars ne sait se plonger dans les splendeurs du passé, nul ne peut saluer le futur avec plus d'ardeur, mais c'est le présent, l'éternel présent, qu'il glorifie et dont il se fait l'allié. Voilà. Tout est réussi.
Oui. Bien sûr. Oui. Parce que c'est dans le présent qu'on peut retrouver, qu'on peut être relié à l'espace intérieur qui nous habite, quoi.
Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille occulter le passé.
Ah, bien entendu.
Ni le futur.
Le présent se nourrit du passé.
Voilà.
Ça c'est clair.
Et nous pouvons peut-être passer à Jean-Pierre Lemaire.
Si vous voulez, oui, avec plaisir. Je vous écoute.
Alors, Jean-Pierre Lemaire, il dit ceci. Je ne suis poète. Alors, c'était votre préfacier. Très belle préface, Approche de l'Urbain.
Oui.
Jean-Pierre Lemaire.
Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette préface de Jean-Pierre Lemaire.
Très, 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 très bien. Alors, il dit, je ne suis poète que le temps de l'écriture du poème. Le reste du temps, je ne suis pas poète. Poète n'est ni un titre, ni une fonction. Voilà.
Oui, il m'a dit ça un jour. Ça m'est toujours resté dans l'oreille. C'est son point de vue, bien entendu. Je le respecte. Et en même temps, je ne peux pas être complètement d'accord. à titre personnel. Je trouve que quand on est poète... on a un regard de poète tout le temps, quoi. Ou on essaye de l'avoir tout le temps dans la vie de tous les jours, même quand on n'écrit pas de façon précise. Jean-Pierre. Pierre m'a dit ça un jour, le poète n'est ni un titre ni une fonction. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas un titre et que ce n'est pas une fonction. Mais je pense que le regard poétique est un regard que nous essayons d'exercer de façon permanente, quoi. Et nous essayons, hein, je dis pas qu'on y arrive, hein, loin de là, mais nous essayons. Et bon, ça devrait faire l'objet encore d'un débat entre moi et Jean-Pierre Lemay. mais bien sûr, je suis d'accord avec lui quand il dit que ce n'est ni un titre ni une fonction. Il y a certaines personnes qui se drape un petit peu du titre de poète ou je suis poète ou moi je suis académicien ou moi ceci moi cela, mais ce sont des personnes qui souvent sont quand même un petit peu dans l'extérieur des choses et pas tellement dans l'intérieur.
Oui, vous me rassurez parce que il y a deux jours nous avons remis un prix à Annie Briet qui est la compagne de Michel Cozem.
Oui.
L'Académie d'Occitanie, et j'ai cité ça, poète n'est ni un titre ni une fonction.
Voilà. Ah ben voilà.
Alors, il dit aussi, en parlant toujours de la poésie, qu'elle nous aide à franchir de multiples frontières qui obscurcissent notre regard et entravent notre marche. Elle nous ouvre, alors, ce qu'il appelle la porte secrète, et avec une immense douceur, nous rappelle inlassablement cette simple vérité. L'infini cherche un port dans ton cœur.
Oui, oui. Merci. Je crois que toute la poésie de Jean-Pierre Lemaire est résumée dans ces mots. Je crois que toute la poésie de Jean-Pierre Lemaire est écrite à partir du cœur, à partir de son observation des choses quotidiennes, très, très simples, banales parfois. Et de ces choses très simples, il parvient à saisir ce qui les transcende, ce qui les transcende et qui relève de l'infini, de ce qui demeure. Nos vies, bien sûr, sont éphémères, nous passons tous, et toute expérience est vouée à disparition. Les expériences subsistent un peu dans nos souvenirs et puis finalement elles disparaissent. Mais il y a en nous, toujours, chez tout le monde, il y a quelque chose de l'ordre de l'indemne, de l'intact, de l'inaltérable, quoi. Et je crois que Jean-Pierre Lemaire, toujours à travers sa poésie, il parvient à saisir cet inaltérable, cet invisible, quoi. Et il illumine le quotidien, ce faisant. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui me touche énormément dans la poésie de Jean-Pierre Lemaire. Il illumine vraiment le quotidien. Et les mots que vous citez, qui sont à la fin du chapitre que je consacre à Jean-Pierre Lemaire, l'infini cherche un port dans ton cœur, ben ça résume tout ça, quoi. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Je pense que nous avons tous, au fond de notre cœur, un port qui n'attend qu'une chose, c'est d'accueillir l'infini.
Je le souhaite ardemment, que ce soit que ce soit universel.
Oui.
Alors nous allons passer maintenant, puisque je voudrais finir peut-être sur la lecture d'un de vos poèmes quand même.
Oui.
Nous allons passer à Jean-Marc Sourdillon.
Oui.
Vous citez un entretien avec Isabelle Lévesque, que nous connaissons bien, là. Nous avons fait des émissions avec elle.
Ah, c'est bien, oui, elle est magnifique, hein, Isabelle Lévesque, c'est vraiment...
Saluons Isabelle Lévesque.
Une grande personne.
Et alors, elle dit, la poésie, alors il lui dit à Isabelle Lévesque, donc Jean-Marc Sourdillon, la poésie comme langue de l'espérance, magnifique ça.
Oui.
Et la seule réponse sérieuse à l'intérieur du désespoir.
Oui.
Voilà. Donc, il y a une solution au désespoir, c'est la langue de l'espérance, qui est la poésie.
Bien sûr, bien sûr. Et ça me fait penser à un écrivain que j'aime énormément, qui est Henri Beauchot. Henri Beauchot disait, dans le champ du malheur, planter une objection. Mais c'est ce qui l'a conduit à écrire des livres tels que « Et type sur la route ou Antigone, bien sûr. Antigone, c'est ça. Le chant du malheur, planter une objection. Et je pense que Jean-Marc Sourdillon dit exactement la même chose. Et la poésie comme langue de l'espérance, c'est une très 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 belle formule. Et l'espérance, c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est ce qui advient quand il n'y a plus d'espoir. L'espoir vise un but. J'espère réussir mes examens, ou j'espère que j'aurai une nouvelle voiture, ou je sais pas, un truc comme ça. Tandis que l'espérance, c'est ce qui nous jette en avant vers quelque chose d'inconnu, mais dont on se dit que ça vaut la peine d'aller vers l'avant. Mais ça reste inconnu. L'espérance n'a pas d'objet, en quelque sorte. L'espérance, c'est avancer envers et contre tout. Et voilà, je crois que c'est ça. Alors moi, j'aime beaucoup cette formule de Jean-Marc Sourdillon, dire la poésie comme langue de l'espérance. La poésie est, encore une fois, comme on l'a dit à quelques reprises au cours de cet entretien, la poésie est toute forme d'art, bien entendu.
Oui, et
pas seulement des artistes aussi, il y a plein de personnes qui ne sont pas artistes à proprement parler, qui ne pratiquent aucun art, mais qui marchent dans la vie avec rivé au cœur le chant de l'espérance. Quoi.
Et qui sont des artistes.
Pardon ?
Et qui sont des artistes.
Ils sont des artistes du cœur, tout à fait. Oui.
Alors, nous avons... pas dit quand même pour le titre de cet essai Poésie fenêtre ouverte qu'il était largement inspiré de Jean Giono. Je suis seulement l'ouvreur de fenêtre, dit-il, Jean Giono, le vent entrera après tout seul. C'est magnifique comme phrase.
D'abord il faut savoir que j'aime beaucoup Jean Giono, c'est un écrivain que j'ai énormément lu dans ma jeunesse et je le relis de temps en temps. C'est un des écrivains qui m'a beaucoup inspiré. Et cette phrase, je la trouve très belle parce que le vent, je vais dire, le vent, c'est le souffle, c'est l'esprit, c'est je ne sais pas quoi, encore une fois, qui souffle toujours, qui est toujours là. Mais souvent, nous fermons nos maisons. Hein. Nous revenons à cette idée de séparation entre soi et le monde dont on parlait au début de notre entretien. Et nous fermons nos maisons, nous fermons les portes, nous fermons les fenêtres par besoin de sécurité, par besoin de rester dans le connu, etc., etc. Parfois, il suffit simplement d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir les fenêtres, et d'être attentif à ce qui se présente, à ce qui vient, à ce qui passe. La vie est incroyablement belle. Il suffit de pouvoir la contempler, la regarder, la ressentir, et à partir de là. Partager, si vous voulez, ce qui fait que la vie est vivante, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, parfois, la poésie, c'est quelque chose de très simple. Il suffit d'ouvrir sa fenêtre, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit, et voilà, il y a quelque chose qui passe. Si on n'avait rien ouvert, on ne l'aurait pas ressenti, jamais. Et beaucoup de personnes passent leur vie sans jamais ouvrir quoi que ce soit. Et je pense que un des rôles du poète et de l'artiste en général, c'est de dire oui, mais vous pouvez ouvrir votre fenêtre, vous pouvez ouvrir votre porte.
Oui.
Il y a quelque chose d'autre que cette vie que vous vivez là. Il y a quelque chose qui la dépasse. Allez vers ce qui dépasse votre vie et qui lui donne sens.
Porter le regard plus loin.
Oui, le regard plus loin. Plus loin. Ouais. C'est tout ce que j'ai essayé de souligner à travers les
paysages.
Dans cet ouvrage.
Ce regard, il peut être porté sur les paysages, mais sur les événements, sur
bien
les
sûr.
Gens, sur tout quoi.
Bien sûr, sur bien tout. Sûr, ouais. bien sûr.
Il y a une phrase de Le Clézio qui est pour moi un peu mystérieuse. C'est si la poésie dit quelque chose à l'homme, quelque chose que ne lui disent pas le roman ni la philosophie, soit être ceci, que tout soit nouveau.
Oui. Mais oui, parce que quand on ouvre les fenêtres et qu'on découvre la vie,
oui, ça devient nouveau.
Elle est neuve à chaque instant. Tout est toujours neuf, quoi.
Oui.
Tout est toujours printemps.
Oui.
Et c'est la façon de rester en route, de rester en chemin. C'est de se dire qu'un pas plus loin, il y a quelque chose de neuf que je découvrirai.
Oui.
Et après, encore un autre pas plus loin, quelque chose d'encore neuf. Et la vie n'arrête jamais de se renouveler, d'être neuve à chaque moment, quoi.
Oui.
Donc, il faut absolument éviter de s'encrouter dans quelque chose qui paraît construit et de façon sûre pour toujours et à jamais, quoi. La vie nous surprend à chaque moment, à chaque instant, et c'est ça qui est merveilleux. C'est ce qui suscite l'émerveillement. L'émerveillement, c'est une des, je crois, des qualités de base du poète. Le poète ne pourrait pas être poète s'il ne pouvait pas s'émerveiller au départ.
Et c'est la qualité du regard qui fait l'aventure.
Exactement, oui. Oui, oui.
Kenneth White s'inspirait d'Henri Thoreau, hein ?
Oui, oui, tout à fait, oui.
Et lequel disait, garde présent à l'esprit, n'oublie pas une seconde qu'il y a des plans de vie plus élevés que celui sur lequel en ce moment tu voyages.
Oui.
Sache que le but est lointain et qu'il va vers le haut et que toute ta vie vaut d'être un effort pour l'atteindre. Est là.
Ça, c'est une phrase qui m'accompagne depuis que j'ai découvert Henri Thoreau. J'avais une quinzaine d'années, je pense.
Oui.
Et ça m'a vraiment mis en route, quoi.
Ça, oui. Il y a de quoi, effectivement, parce que tout est là.
Oui.
Il faut avoir ce courage et cette force, quand même.
Oui. Oui, bien sûr. Oui, oui, ça demande une certaine solidité intérieure, quoi.
Et
parce que le chemin n'est pas toujours facile, bien entendu, pour personne.
Oui.
Et on peut passer par des moments de découragement, des moments d'épreuve. Enfin, vraiment, donc, oui, il y a quelque chose qui, comment dirais-je, on sait que on place notre espérance dans le fait que le chemin va quelque part, même si à un moment donné on a l'impression qu'il ne va nulle part parfois. Donc ça demande un courage et une fidélité à cette espérance, quoi.
Oui. Une volonté,
je crois qu'il y a une espèce de fidélité à l'ordre de ce qui est intérieur.
Oui, fidélité, c'est-à-dire une foi. Il y a le mot foi dans fidélité.
Oui,
il faut avoir la foi en ça.
Oui, oui, c'est une forme de foi, oui.
Alors, dans les dernières minutes qui nous restent,
oui,
je voudrais que vous nous lisiez un poème. On va rappeler quand même le titre de cet essai, Thierry Pierre Clément, Poésie fenêtre ouverte, essai aux éditions Samsa, donc à lire sans attendre. Cet essai vous coûtera 22 €. Et si vous voulez bien, Thierry Pierre Clément, je vais vous demander de finir cette heure d'entretien sur la lecture de quelques-uns de vos poèmes.
D'accord, avec plaisir. Merci de m'en donner l'occasion. Il me reste combien de minutes, là, en fait ?
Alors, il reste, 2 minutes, on me dit.
2 minutes, 2 minutes. voilà. Attendez, je vais... Qui s'appelle La Présence. Assis sur la pierre, au flanc de la montagne, absolu silence. Le murmure seul d'un insecte ou du vent. Le flux de ton sang, seul au monde. Tout au monde. Un autre poème. Arpentant cette plage, le long du flux et du reflux, tu suis la ligne d'écume entre le sable et le sel, le palpable et l'inconnu. Tu foules l'imperceptible crête entre le temps et l'éternel. Où donc ta certitude ? Dans ce que tu crois tenir ou dans ce qui sans cesse t'appelle et te fuit ? Un dernier poème. Ainsi nous remontons jusqu'à la source, la main ouverte qui se déploie en mille et une rivières.
Nous tenons tous au creux de cette paume, éternel bourgeon à éclore sur le monde, fleur invisible. Le feu nous rassemble entre ses doigts. Ce feu qui ne nous consume pas, il est la sève, le vent et notre argile. Ainsi, sur le sel de nos larmes, le sang de nos guerres et le sable de nos désirs, se lève l'aube sans fin de la lumière dévoilée.
Merci
ces
beaucoup.
Poèmes sont extraits d'un recueil intitulé « Approche de l'aube », préfacé par Jean-Pierre Lemaire,
aux éditions paru chez Absolem. Voilà, que j'ai sous les yeux. Et nous avons eu le plaisir déjà de faire une émission là-dessus. Merci beaucoup,
merci
Thierry,
beaucoup.
Pierre et Clément. À très bientôt.
Merci beaucoup, merci. À bientôt.
Donc, ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous disons bonne semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons la semaine prochaine à 10h.